Ça marche. Donc, merci, Grace, pour cette lecture. En se proposant tous les deux de travailler sur les imaginaires coloniaux, par rapport à un sujet comme ça, je suis quand même un petit peu en retrait. C'est en tant qu'historien, ce n'est pas mon objet. Mais toi, Patrick, ton œuvre, elle est complètement traversée par ce thème qu'on s'est donné, les imaginaires coloniaux. Et je trouvais normal, donc c'est moi qui t'ai proposé, ça vient de moi et pas de toi, que tu nous parles un petit peu de ton œuvre d'écrivain en fonction du thème qu'on s'est donné cette année sur les imaginaires coloniaux. Donc, j'étais un petit peu forcé, hein, je crois qu'on peut dire ça. Et puis nous voilà, donc ici, parlant de tes livres. Alors, peut-être que pour entrer dans ton œuvre, ce qui serait le mieux, c'est d'en poser d'une certaine manière les conditions presque matérielles. Je pense que c'est important. C'est une œuvre qui obéit à une architecture très précise, particulière. Et on peut peut-être commencer comme ça.
Oui, en effet, je ne suis pas très à l'aise de faire ça ici. Enfin, et puis en plus, c'est le matin. Je n'ai pas beaucoup parlé le matin, mais... Mais donc, pour le dire très vite,
pas trop vite non plus.
Bon, je me suis lancé il y a 22 ans dans un projet un peu long, la preuve, qui est un projet dont le titre générique est Abracadabra, et le projet est d'écrire 12 livres. Qui sont 12 romans sans fiction. Je n'écris pas de fiction depuis 22 ans. Et cela dit, je ne suis absolument pas non plus historien. Ces 12 livres sans fiction, donc il y en a à ce jour 6 de parus, le 7e paraît en septembre, obéissent en effet à une grande rigueur à la fois géographique et historique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'effectuer 2 tours du monde sur 12 zones géographiques différentes dans l'ordre, dans un ordre géographique, c'est-à-dire un premier tour du monde de l'est, un premier tour du monde de l'ouest vers l'est, et puis un deuxième de l'est vers l'ouest. Tous ces livres commencent en l'année 1860, et donc je n'invente, tous les événements, tous les personnages, toutes les dates, tous les lieux, je n'écris jamais sur un lieu que je n'ai pas vu, sont vérifiables. Et donc, pour raccrocher à cela, en effet, traversant de 1860 à aujourd'hui, alors cet aujourd'hui glisse, puisque l'aujourd'hui du premier livre... ça s'arrête en 2002 et que celui qui paraît en septembre s'arrête le 21 février 2019. Mais donc de 1860, alors j'ai choisi 1860 qui est une année que évidemment je connais maintenant mieux que beaucoup d'années que j'ai vécues. Il s'agit de collecter d'abord, mais ensuite de connecter ces événements tout autour de la planète. Le premier, pour la vida, c'est une histoire de l'Amérique centrale, de cette année 1860 où il y a l'exécution, on fusille un aventurier, William Walker, qui s'était emparé, qui a fait la guerre pendant 7 ans pour s'emparer de l'Amérique centrale, qui est parvenu à devenir 2 fois président du Nicaragua, avec un projet colonialiste. Alors que, vous le savez, ensuite, il y a les États-Unis d'Amérique, ce sera l'impérialisme. Mais là, il y avait encore, puisque c'est juste... ce Fusilamiento de William Walker le 12 septembre 1860, c'est en quelque sorte ce qui va provoquer la guerre civile juste après aux États-Unis. Lui, c'est un Américain du Sud, et le projet des sudistes était de s'emparer de l'Amérique centrale, de percer le canal interocéanique pour s'emparer de la Californie, auquel cas les Yankees étaient battus. Et c'est ce qui va provoquer cela. Et donc je suis cette histoire en Amérique centrale jusqu'à la chute politique des sandinistes que je vénère, c'est-à-dire ceux du Movimiento Renovador, Sergio Ramírez, Ernesto Cárdenas, Luis Rocha, et pas ce cinglé de Daniel Ortega, qui lui, comme vous le savez, est revenu au pouvoir. Après cette histoire de l'Amérique centrale, Equatoria est une traversée équatoriale de l'Afrique, de Sao Tomé dans l'Atlantique jusqu'à Zanzibar dans l'Indien, en reprenant toutes ces histoires depuis 1860 et en suivant un événement en direct. C'est le projet d'élever sur la rive du Congo un mausolée. C'est le projet de ce cinglé de Denis Sassou Nguesso d'élever un mausolée à Savornian-de-Brazza. Il en était un peu question hier, puisque Savornian-de-Brazza... il en était question, puisque vous avez lu un avant-poste du Progrès de Conrad, qui est la première nouvelle qu'a écrit Conrad après avoir remonté comme Brazza ce fleuve Congo en juin 1890, tous les deux à bord d'un vapeur différent, Brazza depuis Brazzaville pour aller jusqu'à Lubangui et cartographier la Sanga, et Théodore Korzniewski, ce marin polonais qui n'était pas encore Joseph Conrad, remontant de son côté depuis Léopoldville devenu Kinshasa jusqu'à Stanleyville devenu Kisangani, où il va écrire une première petite nouvelle, un avant-poste du Progrès, puis ensuite Heart of Darkness, au cœur des ténèbres. Et ensuite, Brazza va faire une mission d'inspection et vraisemblablement sera empoisonné, assassiné par les colonies, et son rapport disparaîtra. En même temps, quand j'ai écrit Equatoria, je me suis adressé aux archives coloniales, j'ai essayé de remettre la main sur ce rapport. J'ai mal cherché, puisque comme vous le savez, je ne suis pas historien, je ne suis pas professionnel, mais donc une historienne plus efficace que moi, finalement, a retrouvé ce rapport quelques années plus tard et l'a publié. Mais donc, au même moment, il y a, enfin, puisque c'est lié, il y a cet Anglais Roger Casement qui devient lui aussi l'ami de Conrad. Ils travaillent ensemble, lui aussi travaille avec Stanley. La Grande-Bretagne, donc il devient consul de Grande-Bretagne, on lui confie une mission d'inspection, lui aussi. Et il écrit, lui, un rapport qui ne disparaît pas, qui s'appelle le Blue Book, et qui va en effet faire de lui l'ennemi personnel du roi des Belges. Il dénonce sur les deux rives du Congo la situation, le retour déguisé de l'esclavage, le portage, c'est lié au caoutchouc, évidemment. Et ce Casement reprend sa vie, puisque ensuite l'Angleterre l'envoie justement en Amazonie, ce qui est le sujet là, de celui qui paraît. Il est anobli et il reprend les mêmes enquêtes, mais en Amazonie, sur les barons du caoutchouc. Il publie un nouveau rapport qui va ruiner Manaus, qui va ruiner les barons du caoutchouc. Et puis, j'y pensais également hier, j'y pensais quand Saint-Garavelou a parlé de cette légion indienne, parce que c'est la Première Guerre mondiale, lui. Finalement, il va faire un parallèle entre le colonialisme des Anglais et au sujet de l'Irlande et celui de l'Europe en Afrique. Et puis, il va aller jusqu'à trahir, alors qu'il est noble et qu'il est diplomate britannique, il va soutenir au début de la Première Guerre mondiale les Allemands. Il va obtenir un soutien militaire de l'Allemagne auprès de l'Irlande. L'Irlande s'engage à... Bon, c'est ce dicton, vous le savez, que les malheurs de l'Angleterre font le bonheur de l'Irlande, mais il pousse le bouchon un peu plus loin. Et finalement, il trahit, il part pour l'Allemagne et il monte une légion de prisonniers de guerre irlandais, une troupe de supplétifs dont il dessine les uniformes, etc., qui pourrait en effet se battre, soutenir les Turcs contre les Anglais dans la péninsule arabique et puis éventuellement combattre les Anglais, combattre le Raj en Inde, et finalement il est pendu. Voilà, sont toutes ces histoires. Alors évidemment, tout cela, ce sont des imaginaires coloniaux que je traverse parce que tout cela est constitué de la lecture des littératures et que toutes les littératures se sont construites sur ce siècle et demi à partir de toutes ces histoires. à la fois magnifique et terrible, mais de manière très, très différente. Puisque, donc, après cette traversée équatoriale de l'Afrique, pendant 3 ans, j'ai suivi, donc toujours en allant plus vers l'Est, j'ai suivi pendant 3 ans à Phnom Penh le procès numéro 1 des Khmers Rouges. Et donc, sur cette zone géographique, Birmanie, Laos, Cambodge et Vietnam. Et
ça, c'est le roman Kampuchea.
C'est Kampuchea, oui. Et là, justement, j'ai essayé de reprendre très, très vite, quoi, de 1860 au procès des Khmers Rouges. Et là aussi, c'est lié complètement à cet imaginaire colonial. En 1860, il y a par hasard ce scientifique Henri Mouhot qui découvre ou redécouvre les temples d'Angkor. Et d'un coup, par une manipulation idéologique du Second Empire en France, les temples d'Angkor deviennent pour le Second Empire ce qu'avaient été les pyramides d'Égypte pour le premier. Il y a un imaginaire colonial, justement, avec des revues comme Le Tour du Monde, puisque Mouhot meurt, hein, il ne sort pas de la forêt. Mais on retrouve son journal avec... en fait, des Portugais avaient déjà raconté ces histoires de temples perdus dans la jungle, sauf que lui, c'est un scientifique, il a un compas de marine, il les localise, etc. Et donc, ça lance cette idée, voilà, les temples d'Angkor, depuis la splendeur angkorienne, ces temples abandonnés depuis le XIIe siècle au cœur de la jungle, n'attendaient que la France, quoi. Et ça lance, en effet, enfin, très vite, quoi, il y a la création de Saïgon, dont il vient d'être question, la première colonie, la Cochinchine, et puis ensuite les protectorats du Cambodge, du Laos, et du Tonkin, de l'Annam. Et je voulais très très vite, enfin, ça c'est le privilège de la littérature peut-être par rapport à l'histoire, même sans fiction, quoi, de reprendre en 200 pages, en accélération folle, cette histoire justement de cet imaginaire qui passe évidemment par la littérature. Il y a eu en Indochine une littérature indochinoise de langue française. Certains étaient français, mais il y a eu aussi des locaux. Et donc évidemment, bon, on peut citer, enfin, ça apparaît beaucoup dans l'œuvre de... Ça apparaît dans l'œuvre de Pierre Loti, ça apparaît dans l'œuvre de Claude Farrère, évidemment, qui obtient le prix Goncourt avec Les Civilisés. Mais ça apparaît aussi chez Malraux. Et là, hier, il était question de la restitution, puisque ce très grand roman de la Voie royale, il est quand même construit sur le vol à la scie de morceaux de temples angkoriens par Malraux. Avec là, en fait, il n'y a jamais eu de restitution, puisqu'il y a eu tout de même un procès, et que s'il a extrait ces blocs de la jungle... ces blocs n'ont pas été plus loin que Phnom Penh, où ils sont toujours. Et finalement, ils ont été mis à l'abri par la création, le premier musée à Phnom Penh, créé par Georges Grolier. Lui aussi, d'ailleurs, Georges Grolier est le premier Français né au Cambodge, le premier franco-cambodgien, absolument bilingue, avec le premier à avoir absolument les deux cultures. C'est lui qui a créé et fait un travail ethnologique et archéologique extraordinaire au Cambodge. Il a créé le musée national du Cambodge et il est mort torturé par la Kampetai pendant l'occupation japonaise. Enfin, toutes ces histoires, j'allais dire, elles sont magnifiques. C'est pas parce que je les raconte, elles sont en elles-mêmes réellement magnifiques. Et puis donc, ensuite, toujours encore un peu plus vers l'Est, j'ai écrit ce livre « Peste et choléra », là, sur le côté technique et scientifique, enfin, ce grand mythe des positivistes pasteuriens tout autour de la planète. Et cette création des instituts Pasteur, qui était une entreprise évidemment totalement liée à l'imaginaire scientifique, enfin, c'est lié au navire à coque en fer, c'est lié au percement du canal de Suez, c'est lié au charbon, c'est lié à la vapeur. Enfin, tout cela, il n'y a pas de secret, tout cela est absolument connecté. Et donc, il y a et parmi ces pasteuriens, cet Alexandre Yersin, qui est suisse, et qui crée à la fois, qui crée énormément de choses, enfin, et entre autres l'hôpital de Hanoï, mais qui se crée aussi un petit empire sur place, avec à la fois, enfin, il est le premier, alors là c'est lié au Brésil, puisqu'il y a cet Anglais Henry Wickham, qui un peu avant est le premier à voler une tonne de graines d'EVA à Brasiliensis et à les expédier en Asie, Et c'est ce qui va ruiner le Brésil. Et donc, ce sont principalement les Anglais à Ceylan, puis les Néerlandais en Indonésie. Et Yersin sera le premier à acclimater les VA en Indochine, en collaboration avec Michelin. et donc a participé également à la ruine du Brésil. Et donc cette histoire, peste et choléra, se termine à Nha Trang, sur la côte de ce que les Vietnamiens ne veulent pas qu'on appelle la mer de Chine, mais qui en fait, voilà, en fait le Pacifique, et en face de Nha Trang, il y a le port d'Acapulco au Mexique, où débarque Malcolm Lowry en 1836. Et là, je reprends également un siècle et demi de cette histoire du Mexique jusqu'à, de l'autre côté, côté est, le départ d'Antonin Artaud dans le port de Veracruz, qui prend la ligne régulière Veracruz, La Havane, Saint-Nazaire. Et donc Tabataba, le dernier paru pour l'instant, est un siècle et demi de la France, mais avec son imaginaire également colonial tout autour de la planète. Et c'est aussi pour moi un demi-tour, puisque voilà, c'est le livre du milieu, le sixième. Et ensuite, voilà, je suis reparti de l'autre côté, et celui qui paraît donc une traversée du sous-continent latino-américain de Belém sur l'Atlantique à Santa Elena sur le Pacifique, et puis jusqu'aux Galapagos. Voilà. Donc ça, c'est pour le dire d'un mot, malheureusement déjà très long, mais enfin voilà ce qu'est le projet. Et donc c'est lié évidemment à la littérature, à la lecture des littératures qui sont extrêmement différentes du point de vue colonial. Là, je parlais de Malraux, ça concerne la France, mais c'est extrêmement différent dans les littératures africaines qui sont elles-mêmes totalement différentes, extrêmement différentes de celles qui sont écrites en anglais, celles qui sont écrites en français. Et puis par exemple, ce qui est magnifique, principalement celle que je préfère d'ailleurs, la littérature lusophone d'Afrique, et également traversée bien sûr par ce bouleversement, ces imaginaires coloniaux. Par exemple, ce qu'il y a de commun, à Sao Tomé et Principe, il y a cette poétesse qui est morte juste après que je l'ai rencontrée pour écrire les livres, Alda Graça do Espírito Santo, poétesse amie de Agostinho Neto, qui lui deviendra le premier président de l'Angola, également poète, auteur de L'Espérance Sacrée. Et Alda Graça a écrit l'hymne national de Sao Tomé, comme Mia Couto, l'écrivain mozambicain, a participé à l'écriture de l'hymne national mozambicain, et comme en Angola, des écrivains que j'aime beaucoup, comme José Eduardo Agualusa, et qui sont très liés à la littérature brésilienne. Il y a quelque chose, cette ceinture lusophone, c'est-à-dire que c'est Lisbonne et le Portugal qui très vite se sont retrouvés très à l'écart. Et par contre, avec des liens littéraires et culturels très très forts sur cette ceinture lusophone. Et donc ces imaginaires sont très très différents. Et puis en Amérique latine, puisqu'en Amérique latine, évidemment, les indépendances, c'est Simón Bolívar pour le nord, c'est José San Martín pour le sud, mais ce ne sont pas les Indiens qui ont obtenu les indépendances, ce sont les colons. C'est une différence énorme, parce qu'évidemment la littérature de toute l'Amérique latine, c'est la littérature des colons, des descendants de colons, même si aujourd'hui, le temps passant, il y a de la poésie indigène par exemple, mais la grande histoire de la littérature latino-américaine, c'est la littérature des descendants des Espagnols ou des Portugais.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la manière dont tu écris, tu fabriques ces récits? Il y a ce passage personnel, c'est-à-dire voilà, il y a une implication dans le voyage. Tu dis qu'il n'y a pas un endroit dans tes livres où tu n'es pas passé. Donc il y a cette façon d'arpenter et on le comprend d'organiser les voyages aussi en fonction de l'œuvre à venir. Donc, et puis la façon dont tu as parlé de la littérature, mais aussi dont tu peux récupérer, te nourrir et intégrer dans les livres aussi énormément de documents qui sont donnés comme tels la plupart du temps.
Oui, tout en n'étant pas historien, je travaille évidemment sur les archives, en bibliothèque, je lis la littérature. Mais justement, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas historien. Et puis j'ai beaucoup de respect pour les spécialistes, dont vous êtes pour la plupart. Mais j'aime bien aussi qu'il y ait, je ne sais pas, pour la neurochirurgie ou la chirurgie dentaire, je préfère qu'il y ait des spécialistes. Mais Mais ça ne me convient pas, quoi. Voilà, je ne veux absolument pas me cantonner ni à une zone géographique ni à une littérature. Ce projet, c'est justement cette connexion, quoi. C'est de parvenir à une histoire mondiale et de montrer comment, à peu près justement depuis ce moment de la deuxième révolution industrielle, de l'accélération des moyens de transport, c'est absolument lié, et de l'information et de la presse écrite, enfin tout ça est absolument lié. C'est le moment où l'histoire devient mondiale, où un événement sur la planète ne peut pas avoir ne pas avoir de répercussions ailleurs. Et donc, pendant des années, en effet, le travail pour moi consiste à séjourner très longuement. Pour le dernier qui paraît, ce sont, je sais pas, 15 ans que je séjourne très régulièrement en Amérique latine, un peu partout, du Brésil. Bon, j'ai séjourné pendant longtemps, j'ai été assez proche de Rafael Correa et Ramiro Noriega, c'est la Revolution Ciudadana en Équateur, ce sont des gens qui sont devenus des amis. Je souhaite qu'il y ait des années qui passent comme ça, à la fois de lecture, de recherche, mais aussi de rapports humains dans des endroits où je retourne très régulièrement, avant d'en arriver à... Et donc jusque-là, ça pourrait devenir de l'essai, en fait. Hein. Pas de l'histoire, mais de l'essai. Et c'est un peu à la fin, si tout se passe bien, que je fais ce pari que ça pourrait devenir de la littérature.
Et alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette sorte de métamorphose, comme ça, entre l'essai et la littérature ? Comment... Alors là, c'est plutôt le principe, le phénomène, la fabrication de l'écriture dont il est question. Est-ce que tu travailles à partir de notes, de carnets, et comment est-ce que se fait ce moment, se fabrique ce moment où on arrive au livre qui paraît ?
Oui, tout d'abord, j'ai commencé à écrire ce projet le 21 février 1997. Celui qui paraît se termine le 21 février 2019, c'est donc 22 ans jour pour jour. Mais depuis 22 ans, pour moi, le projet est bouclé et je ne peux pas m'en dérouter. Je sais quels sont les livres que je vais écrire et donc il y a ce que les architectes appellent des pierres d'attente, vous savez, ces moellons qui dépassent des immeubles haussmanniens qui sont dans tous ces livres, parce que je sais, et parfois ce sont de tout petits indices, quoi. Dans Peste et choléra, il y a par exemple le nom de ce grand bandit brésilien, Léon Piau, parce que je savais, et là, dans Amazonia, j'écris la vie de ce magnifique bandit brésilien. Il y a comme ça plein de petits cailloux. Mais comme j'ai, et donc là, il m'en reste 5 à écrire, mais évidemment, ces 5, je travaille dessus depuis des années. Je sais, voilà, je les vois avancer un peu. Par contre, ce que j'ignore, c'est ce qui va se passer dans le présent, quand moi, je vais en arriver à les écrire. Évidemment, là, je n'avais pas... j'accueille, évidemment, le présent, à la fois l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil, qui n'était pas attendue quand il y a 15 ans je me suis lancé là-dedans, et puis principalement, enfin ça concerne principalement les Galapagos pour ce livre, enfin l'écroulement écologique, la catastrophe planétaire, c'est quelque chose que depuis 22 ans, oui, on voit venir, mais enfin qui nous tombe sur la tête tout de même. Et donc, s'agissant de la méthode, ce sont des dizaines et des dizaines de carnets Moleskine, quoi. Enfin, ces carnets en peau de taupe, quoi. Et puis ensuite, après des années comme ça de lecture, de recherche, de rencontres, de déplacements, de notes, après ces années, il y a un travail de quelques mois pour chacun de ces livres qui est l'invention d'une forme, parce que tout de même, ils ne sont pas faits au moule. Chaque livre a une forme différente et pendant des mois je cherche une forme. Tous ces livres sont constitués de chapitres très courts introduits par un petit titre en gras en majuscule, et donc à la fin de cette construction j'ai tous ces titres de chapitres et un fichier informatique, donc là on passe de l'écriture manuscrite à l'ordinateur, un fichier par chapitre avec tout ce qui éventuellement pourrait apparaître dans ce chapitre. Et puis ensuite, il y a un autre travail qui, enfin, parce que jusque-là, il n'y a pas d'écriture, quoi. Et ensuite, voilà, tous les deux ans, trois ans, Et c'est toujours du 1er décembre au 1er mars, enfin pour des histoires, parce que vous connaissez le fonctionnement du monde éditorial en France, cette rentrée littéraire française qui est une spécialité que le monde entier nous envie avec le Minitel et la CX Diesel. Et donc, pour publier en septembre, il faut donner le manuscrit le 1er mars. Et donc, tous ces livres sont écrits du 1er décembre au 1er mars. Et là, par contre, il y a quelque chose de chamanique, de magique, quoi. Enfin, de quelque chose qui, justement, c'est là que si tout va bien, parce que là, je commence à la première phrase, dans l'ordre, jusqu'à la dernière phrase, et de manière extrêmement rapide, extrêmement brève, extrêmement violente, avec le pari qu'éventuellement, là, quelque chose peut se passer, parce que quelque chose, là, échappe. Enfin, ça n'est plus un travail rationnel. Pendant des années, c'est rationnel. Et là, ça devient complètement irrationnel. C'est quelque chose échappe, quelque chose... Enfin, le livre s'écrit, quoi.
Donc, c'est 3 mois, comme ça, de fabrication du livre, d'écriture du livre.
Écriture, quoi, enfin, dans l'ordre. Mmh.
Et alors là, de nouveau, il y a un certain nombre de rituels qui conditionne ce moment ?
Non, malheureusement pas, sauf je m'enferme, je ne vois plus personne, je travaille jour et nuit, je tombe dans une espèce de folie, voilà, mais dont je sais que je vais sortir, avec les pompiers ou moi seul.
Je voulais peut-être vous donner la parole, je pense qu'un bon nombre d'entre vous ont lu des livres, des romans de Patrick Deville, donc... On a posé comme ça les conditions matérielles assez obsessionnelles du travail. Et oui, si. Il est là.
Merci. D'accord. C'est Jennifer Yee. Merci de cet aperçu fascinant de comment vous écrivez vos livres. Je n'ai lu que Campuchia pour l'instant, mais avec beaucoup de plaisir. J'avoue que j'ai commencé avec un peu de doute, parce que je me suis dit, oh, c'est encore un livre d'autofiction, et j'en avais un peu marre, hein. J'en ai pas mal lu d'autofiction, et bon, il était temps de passer à autre chose. Mais je voudrais vous poser 2 questions. D'abord, vous avez dit là que vous n'écrivez pas de fiction, et j'ai quelques doutes là-dessus. Donc, il y a un moment où votre personnage, le narrateur, il a une discussion avec des fantômes, et donc, il se peut que chaque essai, même le personnage ou le narrateur, est un personnage de fiction, parce qu'il y a toujours un narrateur qui est fictif. Mais il me semble que là, vous poussez un petit peu plus dans le sens de la fiction que d'habitude. Et donc, la deuxième question, ce serait que là, vous m'avez révélé des contraintes que vous vous posez, que vous vous êtes posées il y a 20 ans pour l'écriture de cette série, que je n'avais pas vue en lisant juste Campuchia. Est-ce qu'il y a un côté oulipien de ces contraintes chronologiques et géographiques ? Est-ce qu'il y a une comparaison à faire avec cette écriture par contrainte ?
Merci. Bon, il y a énormément de choses là, d'un coup. Non, je ne sais pas bien ce que c'est que l'autofiction. Je déteste ça. Je ne sais pas. C'est de l'exofiction. Je n'écris pas de fiction. Voilà. D'un autre côté, il y a un narrateur en première personne, mais ce narrateur, c'est moi. Il s'appelle Patrick Deville, il a ma date de naissance, il a écrit les livres précédents. Tous ces livres, évidemment, peuvent être lus indépendamment les uns des autres, être lus dans le désordre, mais ils sont. Sauf que je n'ai pas de toute façon les moyens de faire ça, de garder tout ça. Évidemment, ce serait toujours mieux de toute façon de ne publier que de manière posthume. Sauf que là, voilà. Et puis la gloire enthume a du bon. Quoi. Mais non, lorsque vous parlez. Donc voilà, il n'y a pas de machin, enfin, exofiction, autofiction, etc. Non, ça ne me concerne pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Quant à l'Oulipo, j'ai un très grand respect. Et même beaucoup d'amitié pour pas mal d'Oulipiens. Mais non, je ne suis pas Oulipien. Je ne pourrais pas me plier. J'ai écrit un texte Oulipien. Un livre à plusieurs, voilà, sous la direction. C'était aux États-Unis de Harry Matthews, avec toutes ses contraintes à empiler. Voilà, on a fait ça avec Echnoz, avec Florence Delay. Enfin, on est plusieurs. Mais enfin, c'était il y a, je ne sais pas quoi, 30 ans. Mais enfin, non, ça ne me concerne pas du tout. Ce n'est pas du tout Oulipien. Et sinon, il y avait autre chose de très intéressant, mais que j'ai oublié, le plus intéressant, votre question. Oui, voilà, c'est ça, c'est cette histoire de... Mais justement, on vient de lire cet extrait de l'amant à Sadek. Et donc, tout près de Sadek, en effet, je passe une nuit avec Pierre Loti. Et nous sommes en 1901. Et donc, comme je n'écris pas de fiction, vous pouvez vérifier ma date de naissance, je suis né un peu après. Mais ça c'est intéressant. En fait, ce que je cherchais dans... je ne vais pas faire deux heures là-dessus, hein, mais j'ai commencé à publier des livres aux éditions de Minuit. J'ai publié 5 romans aux éditions de Minuit au siècle passé. Et c'était c'est les éditions de Minuit, c'était de la littérature expérimentale de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais j'étais beaucoup trop à l'étroit là-dedans. Ça ne me convenait pas. Enfin, c'est pas que ça ne me convenait pas. Je cherchais quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, ça n'était pas pour me retrouver dans les filets de l'Oulipo, par exemple. J'étais déjà trop à l'étroit. Et ce sont des romans de fiction chez Minuit. Quoi. Non, je cherchais justement une forme qui me permit de jouer de tous les genres littéraires. Enfin, le plus grand bonheur que moi j'ai à écrire, c'est que je peux, avec ces livres, utiliser tous les genres littéraires et d'un chapitre à un autre, passer d'un genre littéraire à un autre, utiliser tout l'éventail. Alors, il y a beaucoup de ce genre littéraire que sont les vies, avec un V majuscule. J'écris des vies, j'adore ça. Et sur le modèle de Plutarque, très souvent, ce sont des vies en parallèle, deux vies que je mets en parallèle. Donc il y a les vies, il y a de la biographie, il y a beaucoup d'autobiographie, puisque au milieu de tout cela, j'écris ma vie, même au jour le jour, quoi, enfin ce que je vis. Et puis il y a du reportage, il y a quelque chose qui peut, il y a des entretiens. Enfin, tu parlais de documents, j'utilise des documents de journaux, d'histoire, etc. Mais je fais également des reportages et parfois en prenant des rendez-vous. Il y a aussi des rencontres aléatoires dans des bistrots, des gens que je rencontre. Mais je prends aussi, j'organise des entretiens en disant que je ne suis pas journaliste. Bon, parfois en Afrique, il a fallu que j'aie une carte de presse pour aller assister à l'enterrement de Brazza, enfin au troisième enterrement post-mortem de Savornian de Brazza et à l'inauguration de ce mausolée à Brazzaville. Évidemment, on n'est pas arrivé les mains dans les poches, donc là, il a fallu que j'aie une carte de presse. Mais sinon, quand je rencontre, par exemple, Monseigneur Tessier, l'archevêque d'Alger, pour lui demander ce que pensent les chrétiens du fait que pour la troisième fois depuis sa mort, on va encore extraire Brazza de son cercueil, ou quand je rencontre François Ponchot, le père Ponchot, dans Kampuchea, à Phnom Penh, évidemment, j'enregistre, je prépare ces entretiens et je leur dis que je ne suis pas journaliste, mais que je vais écrire un livre. Et par contre, voilà, quand je dis pas de fiction, je n'aime pas le roman historique ou le roman comme ça, enfin, ou en costume, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les films là, en costume. C'est-à-dire que je suis totalement incapable de placer dans la bouche de quelqu'un ou dans son cerveau une phrase dont je n'ai pas la preuve qu'il l'a écrite ou qu'il l'a dite. Quoi. Ça vaut pour les morts, mais ça vaut aussi pour les vivants. Cet entretien avec Ponchot que je lui ai envoyé après, il n'y a pas évidemment... Enfin, tout ce qui est entre guillemets est à la virgule près des phrases que Ponchot a racontées. Néanmoins, pour enfin répondre à votre question, parmi tous ces genres littéraires qui me plaisent énormément, il y a aussi la littérature fantastique, mais qui se donne là ouvertement comme de la fiction. Et donc, à quelques kilomètres de Sadek, et de l'école de filles de la mère de Marguerite, à Mito. Donc moi, j'arrive de Saïgon, enfin, je loue, j'arrive avec un sampan, un sampanier, un interprète, enfin, c'est une PME pour remonter ces fleuves, etc. J'ai remonté le Mékong jusqu'à Phnom Penh, et puis ensuite jusqu'à la Chine, enfin, dans le nord du Laos. Mais là, un soir, effectivement, je rencontre Pierre Loti, Et nous commençons à parler. Et Pierre Loti, lui, il est à l'escale. Il vient d'écrire ces 3 textes pour lesquels il a été sanctionné dans le Figaro, 3 textes anticolonialistes sur la prise de Hué. Et pour la première fois, et pour lui, c'est extraordinaire parce que les temples d'Angkor, il ne les a pas vus. Mais ça vient, il a lu cette brochure et ça vient de la vénération qu'il a pour son frère Gustave, qui, comme vous le savez, était dans la marine, est mort, a été jeté aux poissons. Et pour la première fois, donc, il va voir ces temples. Il arrive, lui, avec ce qu'on appelle une mouche à vapeur sur le Mekong. Il est à Mito. Et puis ensuite, il va remonter vers le Cambodge et Phnom Penh. Mais à l'époque, les temples d'Angkor sont encore sur le territoire du royaume de Siam. Ils ne sont pas encore. C'est la France qui les remettra ensuite au Cambodge. Et donc là, puisque nous sommes ensemble ce soir-là, nous commençons à papoter. Et donc, je m'aperçois qu'évidemment, comme nous sommes en 1901, moi, j'ai déjà vu les temples d'Angkor. Lui ne les a pas vus encore. Et donc, il n'écrira que 10 ans plus tard ce petit texte, Un pèlerin d'Angkor. Et puisque je lui dis que moi, j'arrive du futur, puisque je suis dans tous ses livres le fantôme du futur, celui qui vient du futur, évidemment, Pierre Loti m'interroge sur le devenir de la Turquie et de ses amis. Et comme nous sommes en 1901, je lui donne tout de même les nouvelles du futur. Et je lui dis, Kemal Atatürk, et je lui dis, voilà. Mais ça, c'est de la littérature c'est de la littérature fantastique, mais qui se donne comme littérature fantastique. On ne peut pas penser qu'effectivement, il y ait... Mais de la même façon, dans Peste et choléra, quand finalement, je vais comme journaliste fantôme du futur à l'inauguration du lycée Yersin à Dalat. Yersin a 75 ans, des journalistes descendent de Hanoï, d'autres montent de Saïgon. Et comme ces journalistes ne me connaissent pas, nous sommes en 1935, je leur dis que moi, je suis directement envoyé par Paris Soir de Lazareff, de Paris. Et donc, évidemment, ils me demandent ce que je pense des résultats probables prochains des élections de l'année prochaine, en 1936, le Front populaire, etc. Mais ça, c'est de la littérature. Enfin, ce sont des petits chapitres de littérature fantastique.
C'est un journaliste du futur ou un reportage du passé,
enfin, voilà, un fantôme, un journaliste du futur. Voilà. Et puis ça se termine mal, puisque ce que je n'ai pas oublié aujourd'hui, mais j'oublie à ce moment-là, on est en 35, de couper mon portable qui sonne. Et là, on se demande évidemment qui je suis. Pourtant, j'ai fait très attention. Je n'ai pas allumé de Marlboro Light parce que je sais que la marque n'existe pas encore. Enfin, voilà. Et néanmoins, la police m'arrête. On m'emmène au poste à Dalat. Et là, pour essayer de m'en sortir, à la police, je dis tout. C'est-à-dire que je dis la vérité. On est en 35, je leur dis, dans 4 ans, il y aura une guerre mondiale, et ici, ce sera ensuite l'invasion japonaise. Et voilà. Et donc, évidemment, comme n'importe lequel d'entre nous qui raconterait aujourd'hui ce qui va se passer dans 10 ans, il met une camisole et on ferme.
Alors, oui.
Oui.
Pierre
Saint-Garavelou. Donc en t'écoutant, je me dis que aujourd'hui, aucun étudiant en histoire ou en sciences sociales ne pourrait citer un roman de Patrick Deville comme une source scientifique. Et pourtant, et là il y a une forme de régression sans doute, pourtant dans les années 1920-1930, eh bien, à l'école coloniale, qui est devenue ensuite l'école nationale de la France d'outre-mer, eh bien, les étudiants, c'est-à-dire les futurs administrateurs coloniaux, aux fonctionnaires coloniaux, magistrats coloniaux, eh bien, devaient étudier obligatoirement toute la littérature, et notamment la littérature coloniale, mais pas uniquement, la littérature française, pour eh bien, s'informer scientifiquement de ce qu'on appelait à l'époque la psychologie coloniale. Et ça, c'est dans les années 1920-1930. C'est notamment le directeur de l'école coloniale, Georges Hardy, grand, enfin c'est le pape hein, des sciences coloniales à l'époque, qui a instauré cette nouvelle discipline, qui a lui-même écrit, je crois que c'était en 1924 ou 26, un premier traité sur l'âme marocaine d'après la littérature coloniale. Il y a eu ensuite des centaines d'articles et d'ouvrages sur cette l'âme coloniale dans les différentes colonies, dans les différents pays. Et moi, j'ai travaillé sur les mémoires des étudiants de l'école coloniale qui avait à travailler donc chaque année sur la psychologie du Cambodgien dans le roman colonial, etc., etc. Alors, et je me suis aperçu qu'à ce moment-là, eh bien, en fait, il y avait une convergence entre la science coloniale française et le programme du roman colonial qui, au même moment, était théorisé par Roland Lebel, Eugène Pujarnisque, Marius-Harry Leblond, donc des gens aussi qui ont pu obtenir le prix Goncourt hein, au début du siècle. Des gens qui étaient considérés comme très sérieux à l'époque et qui élaborent une même science. Et donc, ça n'est qu'ensuite, quelques années plus tard, qu'on a séparé de façon hermétique savoir, enfin sciences humaines et littérature. Mais à cette époque, eh bien, on considérait que le roman naturaliste, narratif, descriptif, ethnographique, psychologique était une source scientifique extrêmement crédible, évidemment au service du projet colonial, hein, pour au service d'une vision différentialiste et essentialiste, naturellement. Mais c'est intéressant de voir comment, au fond, ça s'est refermé assez vite, je crois, à la fin des années 30.
Oui, en même temps, ça n'est pas étonnant. C'était même souhaitable que ça s'arrête, quoi, non ? Mais non, c'est plutôt dans les littératures, évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, enfin, dans cette multiplicité de littérature africaine, par contre, évidemment, le fait colonial est extrêmement important, même si ça n'est pas le sujet des romans, des littératures, avec une diversité évidemment très très grande, parce que pour prendre l'exemple du Cambodge, en fait, le roman cambodgien, il vient tout de même du roman français, parce que ça n'est pas un genre local, ça n'est pas au départ, et qu'il y a eu par contre une grande floraison du roman et du film de fiction au Cambodge à partir des années 50-60, puisque Sihanouk lui-même se prétendait cinéaste de très grand talent, et qu'il aurait espéré être en sélection à Cannes. Mais que par contre, cette grande vogue, enfin, elle s'est arrêtée très brutalement, puisque il y avait plusieurs dizaines de romanciers cambodgiens très célèbres dans le pays au moment où les Khmers rouges prennent le pouvoir en avril 75, et il y a eu quatre survivants, quoi, dont l'un sur lequel j'ai parvenu à remettre la main, qui avait disparu, qui est Sotte Pauline, qui avait écrit L'Anarchiste, qui est un roman très intéressant de ce point de vue, puisqu'il a écrit la première moitié du roman est écrit en khmer et il l'a traduit en français. Et puis ensuite, donc lui, il est mêlé à la chute de Sihanouk, il soutient Lon Nol et puis il trahit également Lon Nol. Et donc il se retrouve chauffeur de taxi à Paris, c'est ce qui fait qu'il échappe. Il n'est plus au Cambodge quand les Khmers rouges prennent le pouvoir, et il écrit directement en français la deuxième partie du roman. Il est très très bien, enfin très très là pour le coup, pour la compréhension de la compréhension de la vie, de la psychologie, etc. Et ce type avait complètement disparu de la situation. Il y avait un exemplaire du roman à l'ambassade de France à Phnom Penh qu'on m'a remis avec la plus grande délicatesse en me disant, voilà, vous pouvez le lire, mais il faut vraiment, c'est le seul, etc. Et puis un peu comme une bouteille à la mer, j'ai utilisé une très très vieille adresse que j'ai trouvée dans les archives, qui était une boîte postale à l'aéroport de Los Angeles, où j'ai envoyé une lettre en papier, et quelques mois après, j'ai reçu une lettre également en papier, écrite au stylo bille. Et effectivement, il utilisait toujours cette boîte postale. Et donc, j'ai participé à la réédition en français à la table ronde de ce roman et à sa résurrection, en quelque sorte.
Il y a le même phénomène au cinéma, avec une floraison de films dans les années 60. Et il y a un très beau documentaire de David Chou qui s'appelle Le Sommeil d'Or.
Mais justement, on avait invité David Chou parce que bon, c'est lié aussi à toutes les aventures de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Et comme tous les écrivains cambodgiens avaient disparu, enfin, les quatre survivants à l'époque, il n'y en a même plus autant maintenant. Et donc, j'ai invité et édité à la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de jeunes écrivains cambodgiens, parce qu'il y a une renaissance. Et donc, on avait invité également David Chou à projeter ce film, mais de très jeunes cambodgiens. Là, c'est une littérature. Enfin, il y a peu d'exemples dans le monde, bah, d'abord d'une révolution aussi radicale que celle des Khmer Rouges, puisqu'en 24 heures, la ville doit disparaître, l'argent disparaît, la propriété, enfin voilà. Mais il y a peu d'histoires de littérature qui sont comme cela, brutalement éradiquées, qui disparaissent et qui essaient de renaître de rien.
Oui, Jean-Luc Mey, je voudrais revenir un peu vers la littérature et puis En quoi, justement, ton travail se différencie de celui d'un écrivain voyageur, hein. On a parlé d'Oulipo tout à l'heure, mais je sais que par rapport à, enfin, aux écrivains voyageurs, tu sais quelque chose que tu ne te reconnais pas. Hein, j'aimerais bien que tu nous en dises deux mots. Et puis, entre récit et histoire, hein, le titre que vous aviez donné à cette séquence, mais dans tous tes livres, il y a une affirmation, hein, puisque la couverture de chacun de ces livres porte le mot de roman. Hein, j'aimerais aussi que tu nous parles de ça.
Alors, très vite, hein, mais ça ne va pas passer la journée là-dessus. Hein, mais il y a deux choses. Non, je déteste enfin toutes ces étiquettes, autofiction, exofiction, écrivain, voyageur, voilà, c'est insupportable. Et quant à la revendication, en effet, de roman sans fiction, néanmoins, c'est roman. Et je veux absolument que chaque fois sur la couverture figure ce mot de roman. Mais je pourrais écrire poésie ou je pourrais écrire littérature. Mais si j'écrivais poésie, évidemment, il y aurait des problèmes avec l'éditeur parce que et avec les libraires, malheureusement. Mais enfin, c'est tout de même autrefois ce qu'on appelait la poésie. Mais cette revendication, le roman, c'est le genre des genres. Il n'y a pas de définition positive du roman, il n'y a que de définition négative. Le roman, c'est ce qui n'est pas. Et donc, ça n'est pas du récit, ça n'est pas du... Voilà, mais il y a tous ces genres, c'est ce que je dis. Donc, il y a aussi de ce genre très subalterne qui est le récit de voyage, parce qu'il y a dans ces livres quelque chose qui peut s'apparenter, enfin, des petits chapitres à du reportage. J'aime beaucoup décrire les paysages et particulièrement les ciels. Mais donc, le seul mot qui peut regrouper tout cela, ça n'est pas de la biographie, ça n'est pas de l'autobiographie, ça n'est pas de l'essai, ça n'est pas du reportage, ça n'est pas du journalisme, ça n'est pas du travail scientifique, d'historien, etc. Et donc, le seul mot générique, négatif, qui peut revendiquer tout cela, c'est le terme de roman, mais de roman sans fiction. Sauf qu'il y a, bien évidemment, aussi... de la littérature fantastique, mais qui se donne instantanément comme de la fiction, du délire.
Peut-être une dernière question.
Oui, Yann Nicole. Patrick, juste un petit mot pour revenir sur l'ensemble de l'œuvre que tu as évoquée à grands traits. Ce qui est intéressant et ce qui est fascinant lorsqu'on lit l'ensemble de ces livres, c'est qu'on a l'impression sur l'espace temporel que tu as décrit de 1860 au contemporain, de regarder aussi le monde et l'ensemble des continents avec ses résonances, avec ses liens, avec un certain nombre d'échos qui peuvent se produire, notamment sur des dates communes à différents endroits du globe. Est-ce que, et c'est peut-être d'ailleurs des choses dont on va parler dans la table ronde qui va suivre, mais on a l'impression qu'il y a presque finalement une histoire plurielle qui s'écrit ou une sorte de décentrement du regard. Est-ce que c'était quelque chose qui était ancré dans ton désir d'écriture? Et puis peut-être dire une petite chose finalement d'un certain nombre d'endroits qui sont presque des endroits laboratoires dans tes livres. Je pense par exemple à l'école navale de Brest ou à d'autres qui sont des endroits comme ça qui réunissent d'une certaine manière et qui sont presque des épiphanies littéraires, je ne sais pas comment on doit l'appeler, qui réunissent à un moment donné ces concordances, ces liens, ces résonances à l'échelle mondiale.
Oui, l'avantage de l'école navale de Brest, bon, c'est aussi un goût, hein, ces livres sont emplis de navires et d'histoire de la navigation et d'histoire de la marine. Mais un peu comme toutes les grandes écoles, il y a aussi le fait que si nous, des amitiés indéfectibles et que c'est un vivier, enfin pour ces livres, puisque justement c'est ce moment-là, c'est 1860, et ce sont les trois bordats successifs, et c'est par exemple le fait que, j'en parlais tout à l'heure, ce jeune Julien Viaud, bouleversé par la mort de son grand frère Gustave, lui-même médecin de marine, intègre l'école navale de Brest en 68. Il ne prendra le pseudonyme de Pierre Lothic que bien plus tard en Polynésie. Et il est à l'internat avec un jeune Italien, mais l'Italie n'existe pas encore. 1860, c'est Garibaldi, l'expédition des Mille, et la Sicile et la Sardaigne. Mais donc, il est interne à l'école navale de Brest avec Savornian de Brazza, qui décidera ensuite de s'appeler Pierre Savornian de Brazza, et ils conserveront ces liens très forts tout le temps. Et c'est là aussi que Jacques Calmette commence par faire la navale à Brest et devient médecin de marine avant de devenir pasteurien et de créer le premier institut pasteur de Saïgon. Et donc, effectivement, oui, pour moi, c'est un vivier d'histoire, cette école navale de Brest, et puis le goût aussi, voilà, de la navigation et de tous ces navires, et avec l'avantage romanesque que ces gens vont mener des vies tout autour de la planète. Enfin, c'est le cas des marins, c'est le cas aussi des pasteuriens, c'est le cas, voilà. Et puis, ces types sont liés au développement, enfin, à la croyance encore à ce moment-là, positiviste du progrès des sciences et des techniques et de la médecine, et donc vont travailler dans d'autres domaines. Enfin, Yersin travaille avec Michelin pour le caoutchouc, il travaille avec les frères Lumière pour la photographie, les jeunes pasteuriens vont être les premiers photographes un peu partout sur la planète, Paul-Louis Simon en travaillant sur la fièvre jaune au Brésil, etc. Et voilà. Et non, oui, juste un mot, parce que c'est pareil, hier on en parlait, mais je vais vraiment arrêter là-dessus. Je travaille maintenant plus précisément sur la Polynésie et évidemment, c'est parce que tu as utilisé le terme de laboratoire. Voilà. Et pour en finir avec les imaginaires coloniaux, ce qu'il y a de très particulier avec la Polynésie et particulièrement Tahiti, c'est que c'est le dernier endroit de la planète et ça va réellement servir de laboratoire, parce que c'est vraiment c'est au moment des Lumières, c'est au moment de l'explosion scientifique, de l'étude. Et on va faire de ce petit territoire réellement un laboratoire. C'est le premier territoire qui n'est pas envahi, militairement, sauvagement, par des chercheurs d'or, par des chercheurs de caoutchouc, par des chasseurs, etc. Mais directement par des scientifiques. Quoi. Ce sont les expéditions Cook, Bougainville, etc. Et on va faire de ça une espèce de laboratoire fermé d'observation des peuples, de la nature. Et j'y pensais également hier à cela à propos d'une autre intervention. Bon, je suis épuisé, moi.
Ben, on va aller prendre un petit café. Merci, Patrick.
Merci.